Le peuple de la mer. Troisième partie, chapitre 8. Quelques semaines plus tard, le père Bernard annonçait en même temps au village deux grosses nouvelles. Le mariage de Petit Pierre et l'embarquement de Florent sur les sous-marins. On attendait la première. Elle ne surprit personne. Il fallait bien que ça finît ainsi, avant ou après la mise à mal de Cécile. Mais la seconde fut un événement. De tous les gars du pays, Florent était le premier embarqué sur ces bateaux merveilleux que quelques-uns avaient vu glisser à fleur d'eau dans les rades paisibles. Le fait excita de la curiosité et de la fierté ensemble. Les connaisseurs discoururent abondamment parmi les groupes où les vieux apportent un front méditatif et les jeunes des yeux clairs d'enthousiasme. Le brigadier fut très entouré. Il tenait ses assises chez Zacharie, au milieu de la grande table autour de laquelle les pêcheurs se tassaient coude à coude. Il ne connaissait point de sous-marin, mais il en parlait avec l'autorité que lui conférait sa paternité et en homme qui marche avec son temps, sans se tonner. Déjà, il avait préconisé les moteurs à pétrole et certains casiers en fer pour la crevette, que la marine avait tenté d'importer sur les côtes et qui, malheureusement, ne pêchèrent point. Et, ce faisant, il avait conscience d'être supérieur et de servir son pays. Maintenant, il se répandait en explications sur les bateaux sous-marins. C'est, comme qui dirait, un poisson qui serait raide, un thon, quoi, avec une machine dans le ventre. Il y a des pompes qui remplissent les cales d'eau pour qu'il descende, ou ben qui les vident pour qu'il remonte. Et puis, le commandant voit la mer à la surface pour se diriger par une lunette qui est au bout d'un mât creux. Ça va-t-il vite? Je pense ben, autant qu'un torpilleur. Faut-il être inventionneux tout de même? S'exclama Hackenett. Au regard fixe, au visage grave des hommes, on sentait l'effort de tous les cerveaux sous les bérets. Et comment qu'il s'appelle celui de ton gars? Le Pluviose. Ah! C'est un nom de la Révolution. Il paraît que ça veut dire le mois où il pleut. Les hommes froncèrent les sourcils sans comprendre. Perchet fit de l'esprit. Hey, qu'est-ce que ça peut faire qu'il pleut puisqu'on est sous l'eau? Un tonnerre de rire ébranla la salle et chassa les mouches qui pointillaient le plafond. La conversation devint générale, chacun émit son opinion. Au bout de la salle, le vieil ourtin proclamait « Les bateaux en fer, vous savez, j'ai pas confiance. Et puis, quand on voit pas le soleil... » Mais Bernard, qui a entendu, dit très haut « Les sous-marins, c'est un poste d'honneur. » Tout le monde approuva. Et Doublenaire en profita pour lancer « Qu'est-ce qu'on attend alors pour boire à la santé de ton gars ?» Bernard commanda des litres et Petit Pierre servit à la ronde le vin rosé. Mais quand il fut à tonnerre, hirsute et taciturne, le vieux refusa. « J'aime point ce sirop-là !» Les pêcheurs rigolèrent et s'enhardirent à réclamer. Alors on apporta l'eau-de-vie et les petits verres qui disparurent dans les points roux. La fumée s'épaississait sous les solives, tandis que les cornets de tabac circulaient de main en main. Ceux qui ne fumaient pas se poussaient des boulettes de scaferlati dans la bouche. Les autres se donnaient du feu, nez à nez, en tirant sur les mégots humides. Et bientôt, les chansons commencèrent au branle des sabots qui battaient le sol.
Nous étions deux, nous étions trois, nous étions deux, nous étions trois. Nous étions trois, matelots de groix.
Bernard s'esquiva avec son gars. Un peu nerveux, Petit Pierre se détourna plusieurs fois vers l'auberge. Il regrettait l'absence de cul cassé et il chercha la voile grise du père Crozon sur la mer tranquille, parmi les roches desséchées. Derrière lui, les refrains roulaient, dolents et rudes.
« Nous étions trois matelots de Groix, nous étions trois matelots de Groix, embarqués sur le Saint-François. »
« Dire que tout ça, c'est pour Florent, » fit petit Pierre. Mais Cécile descendait vers lui par la grande route, avec un fichu de laine rose sur ses épaules, en criant aigrement.
« J'allais te chercher, je pensais que tu restais à te saouler avec les autres. »
Petit Pierre ne répondit pas et rentra, silencieux, avec elle, tandis que Bernard les accompagnait de son regard tutélaire. La nuit, dans le village, on entendit Tonnerre parler à la mer. Le temps était solennellement calme et les maisons toutes bleues de lune. Un peu de brise agitait par intervalles les feuilles dans les jardins et la mer soupirait le long du rivage. Petit Pierre sortit dans la courette où frémissaient les deux hortensias, écoutait la voix ruinée du fou de la mer qui braillait au port. Ce n'était plus que des cris rauques, inarticulés, comme des aboiements, mais dont Petit Pierre avait gardé le sens dans sa mémoire.
« Ma câline, ma belle douce, ma femelle enjôleuse !»
Et brusquement un hurlement s'étrangla, et le doux silence lunaire grandit sur le village. Le lendemain, en attendant le père Crozon pour embarquer, Cucassé découvrit à Petit Pierre ses tatouages. Au poignet, un grand navire sous voile, et deux ancres sur le bras avec un drapeau tricolore souligné de la devise « Quand même ».
« Hein, la marine, si on l'a dans la peau !» dit-il.
Les sardiniers s'éloignaient en paquets, très colorés dans la lumière blanche du matin. La mer baissait par petites secousses en roulant du sable comme de l'argent sur le rivage. Un grand tonnier, les antennes hautes, échouait le long des cales, tout incliné d'arrière en avant. Petit Pierre s'exclama
« Ah, mince ! Regarde là !»
Un pied émergeait au bord de l'eau, là-bas, du côté des roches. Petit Pierre se mit à courir avec Cucassé qui se déhanchait. Une forme leur apparut dans la mer limpide, animée d'un fourmillement étrange, avec des choses indéfinissables et brillantes.
« Un noyé !» dit le boiteux. « On va toucher la prime !»
Rapidement, ils entrèrent dans l'eau. L'armée des crabes grouilla sans lâcher la proie.
« Tonnerre ! C'est tonnerre !»
cria Petit Pierre, qui reconnut le maillot blindé de médailles du baigneur. Le second pied avait gardé une galoche. Ils tirèrent le corps au sec sur la plage, tandis que les crabes, lâchant prise un à un, redescendaient avec l'eau qui s'écoulait. Dans la face violâtre, les yeux mangés faisaient des trous, et il y avait des poux de mer plein la barbe. Des gens accouraient, prévenu par le douanier de service, Zacharie, Crozon, le père Clémotte, Bernard et des femmes.
« Qui c'est qu'est naillé ?
Le père Tonnerre.
Le maître nageur ? C'est-il possible ?
Et puis, qu'il est bien fini.
Jouait-il point la comédie aussi cette nuit ? »
Ils firent cercle autour du cadavre, dont la poitrine, constellée de 36 médailles, éclatait au gai soleil.
« Il était tellement ivre qu'il sera tombé à marée basse, » expliqua Bernard, « et le flot l'aura recouvert. Il avait mis son maillot de fête. Un pauvre vieux !»
Cette mort le troublait un peu, comme un mauvais présage, parce que Tonnerre s'était enivré hier soir à la santé de Florent. Quelqu'un dit
« Ah, lui qui nageait, que c'était pis qu'un poisson. Allez donc voir !»
On l'emporta sur une civière, où il acheva de s'égoutter. Son vieux chien Tempête arriva, le flaira, et se mit à hurler, lamentablement.
« Hum, il sent la mort !» fit Zacharie.
Les femmes se signèrent. Le groupe monta au village, tout lumineux et blanc, au-dessus duquel flottaient les drapeaux des usines et des vols paisibles d'hirondelles. Des visages se montraient aux portes, des vieux s'avancèrent. Le père Crozon et Cucassé embarquèrent leur casier. Petit Pierre leur donna la main et les regarda partir sur la mer douce, où des roches, caparaçonnées de lianes, émergeaient en retenant du soleil. Au large, on apercevait des sardiniers en pêche. Il s'attarda à compter les Bretons, distingués par leur voilure chargée d'ocre rouge, et à observer des pieds de vent échevelés dans l'est du ciel. La mer mouvante lui soufflait à la face un air tonique qui l'engorgeait à plein poumon. Il pensa à Tonnerre, qu'il l'avait embattu, cette mer, avec ses bras, comme il disait. Et il revit les plongées tragiques du vieux dompteur de vagues dans les bourrasques. Et il se sentit plus ému à ce souvenir que tout à l'heure, quand il avait pêché le cadavre. Tout de même, elle avait pris sa revanche, l'hypocrite, sans colère, en câlinant. Et petit Pierre sourit en rentrant au village. Le jour suivant, on enterra le maître nageur qui avait sauvé 130 vies humaines dans un coin du cimetière avec ses médailles. À l'atelier, petit Pierre lui bâtit une croix par charité. Le père Bernard et Ourtin portèrent le corps derrière le curé. Clémotte suivit, malgré ses rhumatismes, avec 3 femmes et le chien. Les pêcheurs étaient en mer. Ils n'ont pas de temps à perdre quand la sardine est là. Elle donnait si abondamment autour de l'île que des centaines de barques accouraient de Bretagne. Les usines racolaient au loin des filles pour travailler. Une grosse activité secouait le village et Tonnerre disparut sans laisser d'autres traces qu'une faible crainte dans l'esprit de Bernard, un regret passager au cœur de son gars. Le dimanche, où les barques rentrent au port, les 60 chaloupes du pays se perdaient dans la cohue des Bretons coltarés. Il y en avait tellement que la mer était noire de leurs reflets, tassée flanc à flanc contre la jetée, mouillée par groupes dans le chenal et montée haut sur le sable des grèves. Les belles coques larges, coffrées, dominent l'eau paisible, asservie, de toute la fierté de leur avant en muraille où les marques des numéros blancs ou bleus gravés dans le bois en chiffres de 2 pieds. Et, doucement éculées vers l'arrière, elles se tiennent d'aplomb, complétées de silhouettes par l'inclinaison de leurs mâts, énormes pieux nus, avec seulement un palan qui pend là-haut, comme une tête. Les filets bleus où le vent grésille sèchent en ballonnant sur les vergues avec leur chapelet de liège. À bord, des écailles brillent comme du mica, et les voilures rouges, amenées pêle-mêle, rutilent dans le soleil. Mais la misère est comme une maladie dans l'intérieur de ces barques délabrées, sans abri, sans couchette, où les pêcheurs vivent et dorment entre un plancher poisseux et une voile saumâtre. Une marmite pour la soupe, un baquet pour la teinture, un coffre pour le pain et leur endurance stoïque suffisent aux hommes pour battre l'océan à des centaines de milles de chez eux, dans les hivers mauvais où il n'y a plus de sardines. Races sauvages, pirates, nombreuses, parce que la mer est là, où l'on travaille par famille sur chaque bateau, qu'il faut des bras pour mener. Race endurcie de cœur et de muscles, pénétrée par le socialisme où elle ne voit qu'une libération de la force. Race trop gâtée d'alcool. Les Bretons sont redoutés sur la côte vendéenne où ils s'abattent en suivant le poisson voyageur. À terre, ils pillent les champs, les bois, les poulaillers et même les charniers des fermes que les femmes sont impuissantes à défendre. On a vu l'île-Dieu vendanger dans une nuit. Et, les portes closes, les chiens et les gendarmes ne suffisent pas à les tenir en respect. Le village était envahi par les vareuses brunes. Un bruit continue de galoche, roulait sur la jetée où déambulaient les gars silencieux, le béret en pointe sur le front. Dans le port, d'où monte une rude senteur de pourriture et de rogue, de jeunes hommes se baignaient dans des flaques de lumière. D'autres, assis, les jambes pendantes au bord des cales, contemplaient indéfiniment la mer devant eux. Chez Zacharie, on buvait à pleine table en mâchant la rude langue de Bretagne. Mais les vareuses brunes, étrangères, ne se mêlaient point aux vareuses bleues du pays. On se toisait, on s'affrontait. Une hostilité de race séparait les hommes qui ne se joignaient que pour se battre sans merci, parfois au couteau. Toutes les filles des usines sortaient en atour. Mouchoirs groseilles, pèlerines roses, bleus de ciel, bonnets de linge éclatants au-dessus de leurs visages basanés. Elles allaient à petits pas, bras dessous, riant aux gars sur leur passage. Il y avait des sablaises en cotillon court, en sabots blancs, la grande coiffe ailée posée sur leurs cheveux noirs, rangée en dents au haut du front. Il y avait des bretonnes, tout en velours, adornées de tabliers multicolores et de rubans qui flottent sur leurs coups libres. L'air était bruyant, plein de rire, d'œillades, de gaieté, de désir. Et au seuil des portes, les vieux rajeunissaient en parlant d'autrefois. Tipière et Cécile se promenaient ensemble par le village. Ils portaient une cravate verte sur un plastron empesé et un feutre moucheté. Elle arborait un fichu rouge par-dessus son corsage et un ruban rouge aussi à son bonnet. On les invitait à trinquer de porte en porte.
« Eh ben, à quand la noce ?»«
Je pense qu'il espère l'hiver pour se mettre au chaud. »«
Ah, sacré Pierre ! À la vôtre, les amoureux !»
Cécile repoussait toujours le verre en minaudant et petit Pierre lui mettait le sien aux lèvres pour qu'elle connût sa pensée. Elle riait de toutes ses dents saines, s'étouffait et tout le monde se tordait en lâchant des bêtises. Petit Pierre, qui n'était pas sans jouir de ses hommages, éprouva une contrainte quand Julien Perchet, passant la casquette en arrière, le poitrail large sous le maillot, lui dit en riant
« Regardez-moi ça! C'est mis comme un monsieur !»
Et devant Cucassé qu'il rencontra, accroupi sur une borne, en vareuse et en béret, il se sentit une gêne indéfinissable. Cécile rayonnait naïvement, heureuse des félicitations, de se montrer au bras de son beau Pierre et de sentir l'envie dans les regards des compagnes. Elle épousait un gars sérieux, fils d'un brigadier des douanes et qui gagnait bien sa vie. Aussi, la mère Zacharie, qui ne voulait pas d'un pêcheur pour sa demoiselle, maigrissait de dépit. Réchauffée par toute cette joie, Bernard était repris par sa manie de nettoyage. Il lessiva, blanchit ses quatre pièces, repeignit ses volets et ses briques. Les gens du village s'arrêtaient en passant devant la petite maison colorée comme un jouet neuf et disaient
« Matin, il fait de la toilette pour marier son gars !»
Mais la grosse affaire fut la chambre nuptiale que Pierre occupait à présent. Déjà, la mère Bernard y avait déplacé le lit pour introduire l'armoire où s'étageaient les belles piles de draps écrus et la commode qui portera les photographies de famille et la couronne d'oranger sous un globe. Cécile ornerait le lit de beaux rideaux en cretonne à fleurs. Petit Pierre ferait la table à l'atelier. Il s'amusait de tous ces préparatifs sans les hâter. Chaque soir, à la brune, il s'isolait avec Cécile dans les dunes de la Corbière, où ils échangeaient maintenant des caresses précises à la mode du pays. Il ne parlait pas du mariage, et si on lui demandait quand il aurait lieu, il répondait en riant
« Ça viendra bien, soyez tranquille !»
Alors, ses parents fixèrent la noce au prochain congé de Florent, dans le mois d'octobre. Petit Pierre accepta sans objection. L'attitude de cul cassé, qui lui battait froid, le tourmentait. Jaloux de ce mariage avec une de ces jolies filles qu'il couvait inutilement, de loin, comme un chien affamé, le boiteux évitait Petit Pierre et s'ingéniait à sortir en canot à son insu pour ne pas l'emmener. Petit Pierre rôda autour de lui, bon enfant, un peu déconcerté, s'efforçant de le reconquérir en lui payant à boire. Ce qui le frappait, jusqu'à l'obsession, à chaque rencontre du boiteux, c'était ce bracelet tatoué qui lui cernait le poignet comme une cicatrice. Et l'idée lui vint, pour flatter l'indifférent, et parce qu'il lui plairait de porter dans sa chair un emblème, de lui demander s'il savait graver des figures sur la peau. « Mouais, » répondit Cucassé. « Alors tu vas m'en faire une sur le bras. »« De cœur enlacé, » ricana le boiteux. Mais Petit Pierre, qui n'y avait point pensé, le regarda naïvement et répliqua « Non, deux encres, comme toi, avec écrit dessous « Quand même !» Du coup, Cucassé rit plus fort en se moquant. Petit Pierre sentit la colère le soulever. Il se contint pour ne pas envoyer l'infirme rouler sur le sol et, troussant brusquement sa chemise, il dégagea son bras gauche qu'il claqua en disant « Tiens, travaille là-dessus !» Ils firent la chose dans la cabane des Pirons. Cucassé grava son dessin avec une aiguille en pointillant jusqu'au sang la peau de Petit Pierre. Puis, sur les piqûres fraîches, il sema une traînée de poudre noire qui l'enflamma. Le boiteux guettait la grimace de Petit Pierre à la douleur, mais pas un muscle de son visage ne bougea. Et quand l'opération finit, il demanda simplement « Ça y est ?»« T'es tout de même un bougre !» concéda Piron. Le lendemain, à la sortie de l'usine, comme Cécile empoignait Petit Pierre par le bras gauche, il s'écria « Tu me fais mal, j'ai une éraflure. Montre voir. Oh, c'est ben rin, laisse donc ça. » Mais le soir, devant la mer tranquille dont on sent la présence vaste et rôdeuse dans la nuit sans lune, elle le pressa comme si elle doutait. « Tu m'aimes bien, dis. Toujours autant ?»«
Pourquoi moins ?»«
C'est tout pareil. » répondit-il en la tranquillisant d'un gros baiser. Et les jours suivants, pour ne pas être toujours « mis comme un monsieur », il acheta une vareuse de marin et dit à sa mère « C'est plus chaud et ça coûte moins cher qu'un paletot et un gilet. » La bonne femme rit beaucoup et colporta l'affaire.
« Ah, s'il est économe, le gars, pour entrer en ménage !»